Bonjour chers auditeurs, Catherine Mann au micro pour L'Esprit du Livre, une émission qui vous présente chaque mois quelques livres de parution plus ou moins récentes qui concernent directement ou indirectement la foi chrétienne. Et d'abord, je passe la parole au père Roger Willem qui vous présente un premier ouvrage.
Voici un premier livre que je vous propose. Le titre, c'est « À l'écoute de ton visage ». L'auteur, Jean Witt. Le sous-titre de ce livre, c'est « L'ultime accompagnement d'une malade d'Alzheimer », publié dans la collection Littérature vivante aux éditions Desclés de Brouwer, paru en décembre 2015. Jean Witt est ancien dominicain qui a quitté la vie religieuse et le sacerdoce, comme bien d'autres. Et il a écrit ce livre en contemplant le visage de son épouse qu'il aimait à la folie. Et son épouse, malheureusement, est malade d'Alzheimer pendant 18 ans. Dans cet ouvrage, il décrit les 6 dernières années de sa femme qu'il n'a cessé de regarder comme une personne. Ce livre est avant tout une belle histoire d'amour, un amour qui le conduit à faire de cette maladie une véritable lecture spirituelle, mêlant récits de vie et textes de l'Écriture. Le théologien belge Gabriel Ringlet écrit dans la préface « Épouse de l'invisible », oui, la rudesse de la situation n'est pas sublimé. Jamais l'auteur ne cache la dureté de l'accompagnement. Du début à la fin, nous sommes dans le visible, le très concret, le plus que quotidien, mais invisible, toujours ourlé d'absence, d'échos insoupçonnés, de mouvantes lueurs, invisible hanté de profondes lumières, entre les lignes, sans jamais peser, tout simplement, on peut dire que « À l'écoute de ton visage » offre au lecteur grâce, justement, au langage poétique du récit, un itinéraire spirituel hors des sentiers battus qui ne pourra qu'aider celles et ceux qui sont confrontés à une maladie aussi bouleversante. Et voici un passage que j'ai beaucoup apprécié. Hier, tu as reçu le sacrement de l'onction, sacrement des malades, par les mains du Père Jérôme, remplaçant notre curé. Le fondement de ce sacrement se trouve dans l'épître de Saint Jacques. Quelqu'un parmi nous est-il malade, qu'il appelle le presbytre de l'Église et qu'il prie pour lui après l'avoir oint d'huile au nom du Seigneur. J'avais préparé ta chambre, mis une belle nappe sur la table et posé le crucifix en cuivre et la Bible dessus, ainsi qu'une belle bougie. Sur le coffre, un bouquet. Madame Marinette s'est jointe à nous, ainsi que Nathalie, visiteuse de malade, qui a amené le père Jérôme. Merci de me regarder et de me toucher, m'as-tu dit un jour. Nous t'avons regardé avec respect. Et tu as été touché par l'onction d'huile sur ton front et nos mains. Nous avons prié ensemble, notre Père. Y a-t-il plus grand respect du corps qu'à travers le sacrement de l'onction des malades? C'est avec ce même respect de ton corps que depuis le début, les infirmières te prodiguent des soins, te donnant en quelque sorte le sacrement des soins. Quel beau sacrement! À la fin de chaque toilette, elles te font une onction d'huile sur les talons en utilisant une solution d'acide gras essentiel appelée Sanired pour la prévention des escarres. Cette sorte d'huile, au léger parfum d'anis, raffermit apaise et protège les zones à risque comme les talons, mais aussi la peau au niveau du sacrum. L'infirmière m'en pulvérise un peu sur la main afin que je te l'applique par un léger massage, une caresse sur un talon, tandis qu'elle applique sur l'autre. Voilà comment nos yeux et nos mains te regardent et te touchent. Autre signe du respect de ton corps, avant de t'habiller, à présent, tu ne quittes plus ton lit. Elle te revêt juste du haut d'un pyjama. L'infirmière répand sur toi un parfum précieux. Le dernier que j'ai acheté, un tilleul orangé, porte sur un flacon cette étrange inscription, la chasse aux papillons. Voilà, c'est tout simplement cette dernière communication, par les gestes de tendresse, de simplicité, que j'ai découvert pendant toute ma vie de chercheur, bibliste, les gestes du Christ. Il aimait toucher les malades et leur donner le sens de la vie. Il aimait toucher les lépreux. Il n'avait pas l'heure de se compromettre. C'est la tendresse de Dieu que je t'offre à toi, ma bien-aimée.
À mon tour, je vous parle à présent d'un livre de Mgr Claude d'Agens, évêque émérite d'Angoulême et membre de l'Académie française. Livre important pour nous chrétiens, comme d'ailleurs tout ce qu'il a écrit précédemment. Son titre, « Survie ou métamorphose, l'avenir du catholicisme en France », qui est paru aux éditions de l'Atelier en 2015. Ce livre s'adresse à tous ceux qui veulent réfléchir au problème de la société en France, depuis le mariage pour tous, la laïcité, jusqu'aux problèmes économiques auxquels nous devons faire face, et aux difficultés que rencontre l'Église dans un monde de plus en plus déchristianisé. Il s'agit d'un dialogue avec le journaliste Benoît Guillou, mais l'ouvrage commence par une introduction, tout un chapitre de Mgr d'Agens seul, dans lequel il situe l'Église catholique en France par rapport à la politique et à la société laïque. Il met en garde contre une tentation de repli communautariste ou contre un désir de retour au christianisme politique. plutôt qu'un affrontement avec la société, il conseille de mettre l'accent sur l'éducation religieuse, d'apprendre à réfléchir, de prendre conscience, pour être une personne responsable et raisonnable, qui respecte tout le monde au-delà de toute discrimination. Car Mgr d'Agens croit à l'avenir d'un christianisme mystique, qui s'explique bien sûr, et il commence par nous faire entrer nous-mêmes de façon plus radicale dans le mystère de Dieu, pour ensuite inscrire la force de l'Évangile à l'intérieur de la société, mais en refusant tout rapport de force. Alors, il s'agit pour lui d'une mystique du vivre ensemble, qui situe le rapport aux autres sur le terrain d'une humanité commune. Alors, en partageant les questions de vie et de mort, de bien et de mal, la vérité, le mensonge, le sens de la vie, l'amour, l'espérance. Et il prend comme référence pour cette mystique du vivre ensemble Madeleine d'Elbrel, une mystique avec une insertion dans le monde par la fraternité, l'accueil et la prière. Mgr d'Agen s'appuie aussi, bien sûr, sur les écrits du pape François pour nous rappeler que le but de l'Église, ce n'est pas l'Église, et surtout pas son fonctionnement et son administration. Le but de l'Église, c'est de connaître le Christ pour vivre de lui et pour l'annoncer aux périphéries comme étant le chemin, la vérité et la vie. Mais la vie au milieu des réalités de mort et la vérité au milieu d'un monde de mensonges. Donc selon lui, la vocation du chrétien est de faire des ponts avec le monde, non pas de le fuir et surtout pas de le combattre. Ainsi, chaque rencontre peut être un moyen de relier à la vérité et à l'amour insondable du Dieu vivant. Il pense que l'enjeu est donc de former des chrétiens lucides qui savent argumenter et rendre compte de leur foi en Jésus-Christ au milieu d'un environnement païen, mais des chrétiens fraternels qui soient d'abord une présence priante, accueillante et aimante au cœur de la société, des chrétiens ouverts à la force de l'Esprit-Saint, qui, dit-il, est donné à l'Église pour faire face aux situations nouvelles, et sans préjugés hostiles et surtout pas trop moralisateurs. Inutile de dire que Mgr d'Agen est résolument optimiste, qu'il discerne que les signes des temps annoncent un renouveau, une renaissance, ce qu'il appelle une métamorphose de l'Église. Dans un chapitre où il évoque son itinéraire personnel jusqu'à son ministère d'évêque d'Angoulême, il fait un bilan extrêmement positif en constatant la vitalité de son diocèse qu'il n'hésite pas à donner en exemple. Il est en fait convaincu que le pessimisme ambiant n'a aucune raison d'atteindre l'Église, mais au contraire doit la pousser à développer de nouvelles manières d'être présent au monde. Pour lui, l'avenir de l'Église, c'est de repartir du Christ, de la fraternité autour du Christ, qui doit rayonner au cœur des paroisses, être une présence priante et aimante, qui sait accueillir sans juger, qui est témoin de l'espérance au milieu des épreuves. Et c'est vraiment l'axe de son ministère, l'espérance au milieu des épreuves. Je vous rappelle le titre de ce livre qui est stimulant, donc Mgr Claude d'Agen, Survie ou métamorphose, l'avenir du catholicisme en France, paru aux éditions de l'Atelier en 2015. Thank you.
Voici un deuxième livre très important qui pourrait prolonger d'une certaine manière le livre que nous venons de présenter. Ce livre s'intitule maintenant « La chair délivrée » de Maurice Bellet, paru aux éditions Bayard au mois de septembre 2015. En matière sexuelle, il est nécessaire qu'il y ait une morale, mais laquelle ? La morale chrétienne s'est trop souvent enfermée, et aujourd'hui encore, dans une opposition entre le permis et le défendu. Or, ce système est devenu insupportable pour beaucoup. Alors, où est la solution ? Eh bien, tout simplement, revenir à l'Évangile, répond Maurice Bellet, qui propose, avec audace et virtuosité comme toujours, une voie pour sortir de ce débat impossible. Il montre qu'une morale qui se veut spirituelle doit considérer autrement la condition de l'homme et de la femme, et que le texte évangélique concerne tout être humain en tant qu'être de relation, de parole et de désir. L'œuvre de Maurice Bellet est considérable. Elle est présente à notre monde en train de changer vite et profondément. Il évoque la nécessité d'assumer ce qui semble s'effondrer sous un relativisme ravageur, à savoir les principes d'une morale suffisamment ferme et maintenue pour protéger l'humanité du chaos. Il est une religion qui a été particulièrement et plutôt confrontée à cette situation, c'est le christianisme d'Occident, où est née la modernité. Et il y a un domaine où le débat a été particulièrement aigu, ce qui semble cristalliser une question de fond qui dépasse de beaucoup les controverses en cours. L'affaire concerne les chrétiens, et plus précisément les catholiques. Le domaine en cause est celui de la morale sexuelle. Dans ce petit livre que nous recommandons, dont la lecture est exigeante, nous découvrons des perspectives qui sont encourageantes, positives et lumineuses pour comprendre autrement ce que nous sommes et sur ce que nous devenons. Nous sommes au moment crucial. Jusqu'où peut-on aller dans une interprétation qui s'écarte du sens immédiat et manifeste de la lettre? Le risque est clair, c'est de prétendre tirer du texte ce qu'on y met, d'où la vive irritation de ceux qui prétendent préserver la seule interprétation légitime. Mais le risque existe aussi de l'autre côté, c'est celui d'un fondement et d'un fondamentalisme éthique qui transforme en décret, dans le style juridique, ce qui doit s'entendre comme un appel à la vérité dans le flux et la diversité des relations. Le texte n'est pas sans contexte, et le contexte change le sens du texte. Nous ne sommes plus dans la situation de Jésus ou de Paul, nous ne sommes plus en face du judaïsme de cette époque-là, ou de l'hellénisme, ou de la Rome impériale. Nous venons, après 2000 ans de christianisme, qui ont vu le meilleur et le pire au nom de Jésus, et nous sommes dans la modernité, ou même après, oui, après la modernité, confrontés à ce que les anciens ne connaissaient pas. Il ne s'agit pas d'adaptation, du moins au sens que ce mot prend souvent, de concession, de ce qu'on a trop affaibli. Il s'agit de vérité. La vérité dans la foi se reçoit, mais elle ne se reçoit que sous la forme d'un inventé, et une grande part des malheurs de l'Église vient de ce que depuis le XVIe siècle, en particulier, l'invention dans le monde réputé chrétien est justement passée ailleurs. Bonne lecture. Thank you.
Je vous présente un deuxième ouvrage que vous pourrez trouver à la bibliothèque diocésaine à Chartres. Il s'agit d'un livre du cardinal Walter Kasper, dont le titre est « La miséricorde, notion fondamentale de l'Évangile et clé de la vie chrétienne ». Il est paru aux éditions des Béatitudes en août 2015. Le cardinal Kasper est théologien et fut longtemps professeur de théologie dogmatique. Il s'est ensuite consacré à l'œcuménisme et à l'unité des chrétiens. Il a écrit de très nombreux livres de référence pour la foi chrétienne, dont celui-ci, qui en fait fut écrit en 2012 et édité d'abord en Allemagne et en allemand. Il vient donc d'être traduit en français. Et dans ce livre, le cardinal Kasper cherche, dit-il, je cite, « à allier la pensée théologique à des réflexions spirituelles, pastorales et même sociales pour les relier à une culture de la miséricorde ». Alors c'est un petit livre, un condensé d'une série de ses conférences qui ont d'abord été élaborées pour une retraite, puis reprises et complétées pour former ce livre qui, comme il l'espère, va susciter un renouveau de toute la théologie chrétienne et un vrai tournant dans la vie de l'Église. Il s'agit entre autres, pense-t-il, de ne plus séparer la théologie fondamentale de la théologie spirituelle. À l'origine de ce livre se trouve une triste constatation du cardinal Kasper, je cite, « Je constatais que la miséricorde, pourtant si centrale dans la Bible, était largement tombée dans l'oubli dans la théologie. » Voilà, et donc après, il nous dit qu'au XXe siècle, deux papes ont pourtant, et qui ont été depuis canonisés, donc Jean XXIII et Jean-Paul II, ces deux papes ont reconnu que les signes des temps exigent à présent que l'on place à nouveau la question de la miséricorde au cœur du message chrétien. Et c'est bien sûr à la suite de toutes ces réflexions que le pape François a décidé de rendre à la miséricorde la place centrale qui lui revient de droit. Le livre du cardinal Kasper étudie en profondeur toutes les questions qui se rapportent à ce besoin de renouveau. J'en cite quelques-unes. Qu'est-ce que cela implique de croire en un Dieu miséricordieux ? De quelle manière s'expriment la miséricorde et la justice divine ? Peut-on concilier une souffrance imméritée et la miséricorde divine ? Comment pouvons-nous mettre en accord la miséricorde divine et notre propre façon d'agir ? Comment concrètement l'Église peut-elle vivre le message de la miséricorde ? Etc., etc. Et évidemment, il ne fait pas que poser les bonnes questions, il donne aussi d'excellentes réponses fondées sur une impeccable érudition. Ainsi, le cardinal tord le cou aux idées fausses sur le soi-disant Dieu vengeur et coléreux de l'Ancien Testament qui serait différent du Dieu bon et miséricordieux du Nouveau Testament. Il nous fait comprendre comment Jésus accomplit et révèle le Dieu unique, mais offrant à toute l'humanité l'accès à sa miséricorde. Il examine aussi avec courage le juste rapport entre la justice et la miséricorde, mettant en garde contre une pseudo-miséricorde qui malheureusement a souvent cours actuellement et qui est la tendance à protéger l'agresseur plutôt que la victime, ou une tendance à un certain laxisme qui laisse tout faire sous prétexte de miséricorde sans appeler à une conversion qui pourtant reste indispensable. Donc voilà, bien de questions nombreuses évoquées et approfondies, je trouve, avec une grande clairvoyance. Le pape François a d'ailleurs fait lui-même l'éloge de ce livre en mars 2013, donc ça veut dire qu'il l'a lu en allemand, et je vous lis ce que le pape en a dit. Ces jours-ci, j'ai pu lire un livre d'un cardinal, le cardinal Casper, un théologien très bien, un bon théologien, sur la miséricorde. Ce livre m'a fait tant de bien. Mais ne croyez pas que je fais de la publicité pour les livres de mes cardinaux, ce n'est pas du tout cela. Mais ce livre m'a fait tant de bien, tant de bien. On reconnaît là la façon de parler du pape, très directe et simple. Et de là à penser que ce livre a pu contribuer à la décision du pape François de décréter l'année de la miséricorde, je ne sais pas, mais je vous laisse juger. Et bien sûr, je vous conseille de lire et de méditer cet ouvrage dont je vous rappelle le titre, « La miséricorde, notion fondamentale de l'Évangile et clé de la vie chrétienne » du cardinal Walter Casper, paru aux éditions des Béatitudes en août 2015. Et à présent, je vous dis au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt pour une prochaine émission.